Nous allons parler maintenant des contrats aidés. Un contrat aidé, c'est quoi ? C'est un contrat aidé ou un emploi aidé, hein. C'est un contrat de travail qui a bénéficié d'aides de l'État sous la forme de subventions, d'exonérations ou d'aides à la formation. Ces contrats aidés permettent, dans certains cas, de faire rentrer sur le marché du travail des personnes qui en étaient exclues. Ils relèvent du secteur marchand ou associatif. On compte en France 6 contrats aidés. Mais il y a un gros problème, puisque le gouvernement a fait le choix de frapper fort en réduisant l'enveloppe des contrats aidés, moins 60 000 l'an prochain. En Haute-Garonne, aucun renouvellement ni nouveau contrat n'est plus autorisé depuis l'arrêté préfectoral du 22 juillet dernier. Françoise Laborde, sénatrice radicale de gauche de la Haute-Garonne, a donc demandé au ministre de l'Emploi de s'expliquer sur ce désengagement de l'État du financement des contrats aidés.
L'invité de Sud Info Matin sur Sud Radio.
Bonjour Françoise Laborde.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Quelles conséquences directes et concrètes de cet arrêté préfectoral du 22 juillet dernier ?
C'est un gros coup dur pour un grand nombre de personnes qui sont dans la précarité. Ce sont souvent des emplois de contractuels qui vont se retrouver plongés dans l'exclusion, dans le chômage. Sur Toulouse, la banque alimentaire va avoir quelques problèmes, le Secours populaire aussi. Donc, je veux dire, ce sont quand même des associations qui sont importantes dans cette période de crise.
Alors, aucun renouvellement, hein, je le disais, ni nouveau contrat n'est plus autorisé en Haute-Garonne depuis cet arrêté. Les contrats ramenés à 6 mois non renouvelables au lieu des 2 ans possibles auparavant voient leur taux de prise en charge par l'État chuter à 80% au lieu de 90% et leurs heures limitées à 20 par semaine au lieu de 30. Mais ce contrat peut être renouvelé s'il y a formation.
Alors, ce contrat peut être renouvelé s'il y a formation. Mais la formation, elle est longue.
Donc, elle est trop longue par rapport aux 20 heures
Oui, c'est pas toujours évident. Et puis, on peut pas mettre des gens en formation. Je veux pas être désagréable, mais quelquefois, au Pôle emploi, on met les gens en formation.
Ouais.
Et est-ce qu'ils ont du travail ? Non. Ils comptent pas dans les chômeurs. Et ils n'ont pas tous du travail à la sortie. Donc, je crois que les plus touchés, ce sera comme d'habitude les plus pauvres. Et j'ai envie de dire que les plus touchés aussi, ce sont donc les structures de l'insertion par l'activité économique, qui sont donc relayées par des associations intermédiaires. Et ces associations intermédiaires ont des petits budgets. Et ces associations intermédiaires, elles font travailler les gens sur des petits emplois, du gardiennage, du nettoyage, de l'espace vert. Mais tous ces emplois, c'est quand même mieux que le chômage.
Quelles conséquences sur les associations qui ont déjà, qui sont déjà parties pour cette année, engagées dans des projets ?
Il va y avoir déjà les emplois des permanents de ces associations qui sont un petit peu remis en cause. Parce que déjà, eux, ils vont pas pouvoir faire fonctionner leur structure. Parce que ne pas embaucher, ne pas aider, c'est une chose. Mais c'est aussi mettre dehors des personnes qui avait un travail permanent et pérenne.
Alors, un contractuel en CAE ou CUI touchait mensuellement 1055 euros, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Bon. Combien versait auparavant une association sur ce salaire ?
Alors, les chiffres...
Aux alentours de 250 euros.
75 euros par mois.
Là actuellement, avec cette mesure, avec cet arrêté, ils vont verser 575 euros par mois.
Alors qu'avant, ils versaient que 245 euros. C'est quand même un différentiel important. Donc un emploi, deux emplois, trois emplois, vous multipliez 330 euros de différentiel. Ça nous fait quand même une grosse différence. Je vais vous donner un exemple tout simple. Bon, j'ai une association que je vais aider, mais elles nous ont écrit. Elles ont écrit à tous les députés, tous les sénateurs, le conseil général qui aidait aussi un certain nombre d'associations ne va pas pouvoir en aider plus. Cette association, elle me disait qu'en 2009, en recevant 73 995 euros de financement public, elle générait 380 000 euros de recettes pour les organismes sociaux. Et elle a versé 211 000 euros de salaire. Alors moi, je veux dire, si l'État ne fait pas les calculs de la même façon que les associations, je veux bien l'entendre, mais j'ai tendance un peu à donner raison aux associations d'insertion.
Bon, alors vous demandez du coup que dans le projet de la loi de finances 2010-2011, le nombre d'emplois aidés soit revu à la hausse, que leur taux de prise en charge soit augmenté. Vous y croyez vraiment ?
Écoutez, si on n'y croit pas, c'est même plus la peine de monter à Paris aussi.
C'est sûr.
Donc j'y crois parce que bon, je crois qu'il faut être positif, mais il faut être réaliste. C'est vrai que en ce moment, le budget de l'État, on se rend compte qu'il ne va pas très bien, donc nous allons bientôt le voter et il va être à la restriction surtout. Les niches par-ci, mais le problème, c'est que c'est toujours sur les mêmes. Moi, je veux dire, ces gens-là, on va bien les retrouver quelque part. On va les retrouver où ? Au RSI ? Au chômage ? À la soupe populaire ? Mais c'est quoi ? Donc je pense que les calculs, si ceux que je viens de vous donner sont exacts, et j'ai tendance à le croire, il y a quand même de l'argent, le travail génère de l'argent. Ou alors moi j'y comprends plus rien. On nous a dit travailler plus pour gagner plus, et là on nous dit, tant pis j'y travaille pas.
Alors,
c'est excessif ce matin, vous voyez, un peu agacé quand même.
Françoise Laborde, vous dites, si le gouvernement cherchait à asphyxier le monde associatif ou encore les collectivités locales, dont les départements principalement à gauche, il ne s'y prendrait pas autrement. Est-ce que vous voulez dire que ce sont des décisions purement politiques, partisanes ?
Un petit peu, parce que chaque préfet avait quand même la possibilité d'appliquer la décision nationale, mais de l'appliquer complètement ou avec des petits ajustements. Je dirais que la Haute-Garonne l'applique dans toute sa globalité, et donc peut-être qu'on compte un petit peu sur le Conseil général, sur le Conseil régional, ou sur certaines collectivités, pour payer la différence. Mais à un moment donné, ce n'est plus possible. Puisque, de toute façon, les collectivités territoriales, elles ont aussi un certain nombre de transferts de charges effectués par l'État. On ne va pas refaire l'histoire, la taxe professionnelle, etc. On y est. Donc, à un moment donné, les collectivités, le Conseil général et autres ne vont plus pouvoir compenser. De toute façon, les conseils généraux ne vont faire que du social. Et entre la PAC, tout ce qui arrive en délocalisé, parce que alors là, on veut bien délocaliser.
D'accord. Un mot également, tant que je vous ai au téléphone, Françoise Laborde, sur le vote houleux en perspective sur la réforme territoriale. Je vous propose d'écouter Brigitte Barège, députée UMP, maire de Montauban, qui fait partie des nombreux membres de la majorité qui ne voteront pas le texte cet après-midi. Puis on en reparle juste après.
D'accord. Dans cette réforme que personnellement j'ai défendue, et qui avait comme objectif affiché de simplifier le millefeuille administratif en faisant disparaître des couches entre, vous savez, toute la succession des tâches qu'on a depuis la commune, l'intercommunalité, les régions, les départements, les pays, les SCOT, etc. Aujourd'hui, à l'arrivée, on va avoir une couche de plus, c'est les métropoles. Donc on n'aura pas simplifié les choses. Bien au contraire, on n'aura pas non plus diminué le nombre d'élus. Le nombre d'élus, c'était aussi... On devait diminuer par moitié le nombre d'élus. Je vous prends l'exemple de la région Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, nous sommes 91 élus à la région Midi-Pyrénées. Si la réforme passe, nous serons 250. Donc, c'est dire que on n'est quand même pas arrivé aux objectifs qui étaient assignés. Et ensuite, il y avait aussi l'idée qu'on devait simplifier qui fait quoi, dire qu'en gros, les régions s'occupent des transports et de l'économie, que les départements s'occupent du social, que les communes gardent ce qu'on appelle la clause de compétence générale. Tout cela a été balayé par le Sénat. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune lisibilité dans ce texte, la raison pour laquelle je ne voterai pas.
Voilà, donc Brigitte Barège, députée UMP, maire de Montauban. Vous êtes d'accord avec elle ?
Alors, je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'elle dit, mais je suis ravie de voir qu'elle ne votera pas. Juste un petit mot sur les chiffres, parce qu'elle dit que donc il y aura 250 au lieu de 89, ou je ne sais plus, elle connaît mieux les chiffres que moi, puisqu'elle est au Conseil régional. Par contre, ce qu'elle a oublié de dire, c'est que dans les 250, on additionne aussi, parce qu'elle, elle a pris que les chiffres du Conseil régional qu'elle compare aux conseillers territoriaux. Elle a oublié quand même les chiffres des conseils généraux. Qu'il faut additionner. Et en région, il me semble que nous avons 8 départements Midi-Pyrénées. Donc elle a oublié de compter 89 plus les conseillers généraux de chaque département. égale je ne sais pas combien, et je pense que ça fait moins que 250, du coup, conseillers territoriaux. Mmh. Ça, c'est la petite chose que je voulais remettre à plat, parce que c'est vrai qu'on parle des fois de chiffres, et, et voilà. Bon. Ensuite, bon, les raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord sont peut-être pas tout à fait les mêmes qu'elles, parce que c'est vrai qu'on parlait du millefeuille, on parlait du nombre d'élus. Moi, je vois un petit peu plus la proximité, parce que des conseillers territoriaux vont avoir une double casquette. Ils vont être en même temps, ils vont prendre les grandes décisions pour les régions, mais en même temps, ils devront être près justement des habitants et dans les départements.
Ouais, ouais.
Bon, donc là, moi, je suis pas tout à fait convaincue. Ce que je constate quand même, c'est que les parlementaires, donc là, nous parlons des députés de droite du UMP, se sont peut-être un petit peu sentis floués dans cette loi aussi.
Ouais. Et là, vous pensez qu'ils vont infliger un camouflet au président de la République ?
Écoutez, j'espère. Voilà, ça fait partie de mon optimisme matinal.
Très bien. Merci beaucoup Françoise Laborde d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à vous. Au revoir. Françoise Laborde, qui est donc sénatrice radicale de gauche de la Haute-Garonne.